Pluriel Gay. L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission de Pluriel Gay. Alors on arrive un petit peu sur les chapeaux de roue avec les invités. Il a fallu connaître par les invités à la station de métro, mais tout le monde est là. Et je remercie tout le monde d'avoir répondu présent ce soir.
On est arrivé.
Voilà, on est arrivé malgré aussi nos blizzards dehors.
C'est ça.
Le froid sibérien. Bon, avant de présenter mes invités, je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais déjà parler à Bernard. Bernard, m'entends-tu? Ouais, il m'entend. Bernard, esprit, es-tu là?
Oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir à nos invités.
Voilà, alors il se trouve que Boris, qui devait être là à ta place, mon petit Bernard, est malade. Donc heureusement, c'est dans les vieux pots qu'on fait leur soupe, c'est ce qu'on dit. Du coup, avant qu'on a les vieilles pour tenir le choc, parce que les jeunes, eux.
Ah bon, mais ça, j'adore.
Hein. Oui, tout à fait, je sais, Bernard, heureusement que tu es là.
Et puis, il faut que les carottes soient jaunes.
Alors Boris, lui, le petit genou, voilà, à peine il fait froid, tac. Et Laurence, pareil, elle est malade. Elle devait être là, elle est bloquée du dos. Alors, nous entend, enfin s'ils nous entendent tous les deux, on leur fait des gros bisous en espérant qu'ils se rétablissent vite.
On lui donne un petit bisou?
Ah bah de gros bisous. Oui. À tout le monde, qu'est-ce qu'il dit? Ça c'est Michel. Alors Michel c'est encore pire que Bernard, il est plus jeune mais il a déjà perdu la tête depuis longtemps. Oui je sais, il n'a pas de casque, il n'entend pas ce que je dis. Donc Michel est à la régie. Michel, tu peux dire bonsoir.
Et bonsoir à tout le monde, bonsoir aux invités.
Bonsoir.
Non mais j'ai pas de casque, donc c'est pas évident.
Oui, je sais, puis dans le studio, on est tout nombreux, je t'ai proposé de venir sur mes genoux, t'as pas voulu, tant pis pour
non,
toi.
Non, mais je suis sur les genoux de Bernard, puis il aime bien en plus, ouais. C'est pour ça, alors de temps en temps, je tire l'oreille.
Donc, les deux zigotos, là-bas, Bernard et Michel, en régie. Alors, l'émission de ce soir, la thématique, si vous avez bien suivi sur les réseaux sociaux, on va parler de migrants, de réfugiés, de demandeurs d'asile, pour raison d'identité de genre ou d'orientation sexuelle. Alors j'ai avec moi Jean-Yves qui est déjà venu plusieurs fois à l'émission, qui connaît bien le lieu.
Voilà, effectivement, ouais.
Voilà, il fait un peu partie de notre lieu aussi.
C'est ça, je suis une chaise.
Et Jean-Yves, donc tu étais déjà venu la dernière fois, la dernière émission qui a été consacrée au même sujet, ouais. Qui était plus spécialement dédiée à l'association même que tu représentes ce soir, mais tu es secrétaire, c'est-à-dire DMSG.
Voilà.
Donc tu peux dire à quoi correspond cet acronyme?
Ouais, migration, minorité sexuelle et de genre, d'où la MMSG, DMSG.
Alors, on avait effectivement parlé du rôle de l'association, qui est une association récente.
Mmh. Voilà. Oui, bah, qui a 8 mois maintenant.
Voilà. Donc, on avait parlé de ce rôle, du rôle de l'association. On a un invité qui fait des exercices physiques, c'est ça qui est... Alors, t'as pas.
On est entre sauts, non?
Voilà, c'est ça, voilà. un invité qui a des problèmes d'audition, alors il faut monter le casque. Voilà. Donc du coup, la dernière fois, je reprends ce que je disais, nous avions donc reçu deux MSG avec toi et puis d'autres personnes. C'est bon, ça marche. Tu peux rester debout si tu veux.
Voilà.
Ça fait très star comme ça.
Ouais,
voilà. Ça va marcher. Et on avait plutôt parlé de la, comment dire, l'association en
elle-même. Oui,
hein, de son rôle, etc.
À quoi on sert, quoi.
Voilà, exactement. Et là, ce soir, bon, tu reviens parce qu'on veut encore parler de ce sujet important, mais plus spécifiquement, faire parler aussi des personnes qui sont directement concernées. Alors, DMSG, c'est une association en plus qui cherche à investir les personnes dont elle s'occupe.
Les personnes concernées, c'est ça.
Les personnes concernées dans l'association. Donc, c'est le cas de Sama qui est avec nous. Donc, Sama qui joue du piano debout, donc qui reste debout tout simplement. Est-ce qu'elle nous entend, Sama?
Ouais, je peux l'entendre.
Ah, très bien. Bon, voilà. Tu peux te rapprocher juste un petit peu du micro.
Voilà.
Donc,
ça marche.
Voilà, ça, c'est bon. Donc, tu t'appelles Sama.
Je m'appelle Sama, j'ai choisi Sama, c'est pas mon vrai prénom administratif que ma famille m'a donné, et puis voilà.
D'accord, et tu es de quel pays, originaire de quel pays?
Je suis du Maroc.
Du Maroc.
Et, j'aime le Maroc, c'est pas le Maroc qui m'a blessé, c'est pas le Maroc qui m'a fait de mal, c'est justement l'abrogation de la constitution de code pénal, des lois qui existent au Maroc... qui sont meurtrières, qui ne respectent pas le peuple, ni la dignité du peuple, ni l'être humain de manière générale.
Là maintenant, je vais me tourner vers notre deuxième invité, qui est venu avec toi. Il est là. On parlera aussi de lui, qui est un troisième invité. qui n'est pas de l'MSG, je précise, mais on reviendra à toi, Louis, tout à l'heure. Alors, je me permets de te dire tu.
Oui.
Tu es migrant.
Oui.
Réfugié, demandeur d'asile.
Oui.
D'accord. Dans quel pays ?
Le Cameroun.
Voilà. Et tu tiens à garder l'anonymat sur ton prénom.
Oui.
Hein, ton prénom, ton nom. Donc, tu vas choisir un nom de baptême pour l'émission.
Francis.
Francis. Ça sera donc Francis pour tout le monde ce soir. Merci Francis d'être là avec nous. Merci. Et donc, je parlais de toi, Louis. Alors, Louis, je te rencontrais au centre LGBTI il y a quelques mois. Et il se trouve que tu as un peu dans le sujet parce que... vas-y, présente-toi-même ce que tu es, ce que tu fais.
Alors, que dire, je suis dans le domaine de la recherche, précisément, je prépare une thèse actuellement dans le cadre de l'anthropologie, et je fais des recherches sur les migrants LGBT, notamment les hommes venant d'une zone spécifique, c'est-à-dire l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest francophone. Et peut-être un peu le Comore aussi, c'est-à-dire l'océan Indien, on va dire, des choses comme ça. Et je travaille sur des problématiques telles que la migration, comment on appréhende la migration, mais également une problématique qui est très au cœur de, pas uniquement les LGBT, mais les LGBT sont assez impactés aujourd'hui encore, notamment la gestion des risques liés au VIH, voilà. Donc je suis deux axes dans le cadre de ma thèse, c'est-à-dire la migration, la gestion du VIH et un troisième axe que j'ai oublié, l'homosexualité, comment les migrants la vivent réellement. Voilà.
Comment ils la vivent réellement, c'est-à-dire quand ils sont en dehors de leur pays, quand ils sont dans leur pays d'accueil par exemple.
Depuis le pays de départ, parce que je parle de parcours. Un parcours renvoie un point de départ à un chemin jusqu'à un point d'arrivée. Mmh. Voilà.
D'accord, très bien. Donc je vais revenir à toi, Samar, on va commencer par toi. Honneur aux dames.
D'accord, avec plaisir.
Voilà. donc tu nous as dit que tu es marocaine, tu aimes ton pays, mais tu as quand même été obligée de quitter ton pays. Est-ce que tu te sentais en danger?
Justement, je ne suis pas là pour parler juste de moi en tant que réfugiée, je suis là pour parler de tous les réfugiés africains, de l'Afrique, justement, où il y a tous les pays en fait qui subissent soit la peine de mort, soit des lois meurtrières, justement. Ou alors, si je parle de moi en tant que Marocaine, le Maroc c'est en Afrique, il y a aussi certainement des pays africains où il y a vraiment justement des lois qui ne respectent pas la dignité de la communauté justement LGBT. C'est puni par la loi, il y a la peine de mort, voilà. J'ai quitté le Maroc, en fait, c'est par rapport justement à la loi. J'ai été condamné à cause de ma voix efféminée, ma personnalité, mon comportement efféminé. J'ai été considéré au Maroc parce que toutes les personnes LGBT au Maroc sont considérées homosexuelles, donc que ce soit efféminé, peu importe. Et du coup, voilà, et on m'a dénoncé pour un acte contre nature. Et moi, mon but, en fait, dans la vie, c'est de pouvoir envisager, justement, un but dans la vie si j'ai pas mes droits déjà à la base. J'insiste sur la protection, ça fait partie des droits fondamentaux des droits de l'homme. Parce que l'être humain, s'il est pas vraiment protégé, s'il a pas vraiment le droit à la protection, il pourra pas envisager beaucoup de choses dans la vie. Et moi, plus je grandis, plus je suis en guerre, justement, parce qu'avant d'arriver en France, j'ai toujours milité pour les droits de l'homme. Et j'ai été avec le mouvement alternatif aux libertés individuelles. C'est le mouvement Mali qui a été fondé en 2009, qui milite pour toutes les libertés individuelles, ainsi que la liberté de conscience au Maroc, parce que et l'éducation sexuelle aussi, j'insiste sur ça. Et je suis féministe pour les droits de femmes au Maroc avant que je vienne en France, parce que les femmes ne sont pas vraiment protégées. Moi, j'en fais partie au Maroc. Et il y a tellement de choses, franchement, désolé pour le terme, à venir, qui m'ont poussé de quitter le Maroc en gardant une bonne image au Maroc pour mon pays. C'est un très beau pays pour moi, où il y a une culture, où j'ai été élevée par une magnifique famille. J'ai pas de problème avec ma famille, mais bien évidemment, je sors dans la société, il y a des personnes qui sont peut-être, je peux dire, mal éduquées, mais qui sont sous-développées par le système qui les a créées, qui a créé ces personnes, ainsi que c'est un rapport aussi avec la religion musulmane. Il y a des personnes au Maroc, par exemple, qui sont prétendus musulmans, qui ne sont pas, parce que l'État les nomme musulmans et sont obligés de respecter des lois qui sont faites pour les musulmans. Alors qu'au Maroc, justement, je milite aussi pour... j'ai milité, et je milite même aussi en France pour servir le Maroc et pour pouvoir aider ces gens à distance. Et puis, voilà. Donc, je suis arrivée en France, justement, j'ai fait ma demande d'asile, je suis dans les démarches administratives, ça passe vraiment bien, et j'espère, j'attends l'accord de l'OFPRA pour justement pouvoir travailler, parce qu'il faut qu'on sache, il y a certaines personnes qui ne savent pas que, en fait, les réfugiés, quand ils font pour la première fois la demande d'asile et tout ça, ils ont pas droit de travailler. Bien évidemment, ils vont pas avoir de l'argent pour pouvoir vivre, pour pouvoir loger, pour pouvoir voilà. Donc moi personnellement, en fait, quand je suis arrivée en France, je suis très connue déjà avant que je vienne en France, depuis le Maroc. Et quand je suis arrivée, c'est à travers les associations, j'ai pu rencontrer Jean-Yves. C'est une association parisienne qui m'a envoyé à Lyon justement pour rencontrer des ONG. J'ai vu comment ça fonctionne au centre LGBT. On en parlera tout à l'heure de l'environnement du centre LGBT. Il y a des choses qui passent qui sont pas bien. Moi personnellement, j'en ai subi j'ai subi. Mais je suis là justement pour parler. C'est un moment très 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 important. Je vous remercie énormément parce que j'ai toujours parlé, mais j'attends vraiment de parler devant là à l'émission pour dire des choses, pour dire la vérité, parce que c'est important. Et au centre LGBT,
on reviendra sur ce sujet tout à l'heure. Simplement, déjà par rapport aux pays qui pénalisent l'homosexualité. Alors on parle d'homosexualité souvent, mais dans ton cas, on peut parler de transidentité.
Mais
la loi au Maroc, par exemple, pour eux, l'homosexualité, ça englobe tout. Ça englobe transidentité, ils font pas beaucoup de distinctions.
Alors, premièrement, il faut que vous sachiez, en fait, au Maroc, il y a l'abrogation de l'article 489. Je peux dire ce que dit l'article.
Oui.
C'est l'article de la Constitution du Code pénal marocain qui dit que l'homosexualité, c'est de la perversion sexuelle. Moi, je suis pas d'accord avec ça, parce que l'amour, c'est un crime au Maroc. L'amour n'a jamais été un crime. J'ai toujours milité au Maroc pour dire que l'amour n'est pas un crime. Et du coup, les considérés perversion sexuelle, et les criminels, ceux justement, les homophobes qui commettent un crime, ils sont libérés, et la victime paye, et le criminel, en fait, est libéré. Donc voilà, il est soutenu par l'État.
Alors, quelles sont les peines prévues donc pour l'homosexualité? Il y a des peines d'emprisonnement, parce que ça varie d'un pays à un autre.
Alors, premièrement, c'est un acte contre nature d'après la première expérience de la prison au Maroc. Déjà, c'était vraiment pourri. Déjà, pour un criminel au Maroc qui a fait un crime de rentrer en prison, c'est déjà pourri. Encore pire, c'est un homosexuel. Moi, j'étais considéré homosexuel. On m'a condamné par homosexualité, pas transidentité. Et après, ça prend, en fait, c'est puni par la loi entre 3 mois d'emprisonnement et 1 an d'emprisonnement. Et justement, après...
En fait, la question, c'est de savoir, au Maroc, il y a, comme dans beaucoup de pays, qui pénalisent les personnes LGBT, souvent ils regroupent sous homosexualité. Il y a rarement une pénalisation qui distingue la transidentité, et je pense, on reviendra avec toi là-dessus, oui, parce que on en avait parlé, transidentité et homosexualité. Souvent, par exemple, en Afrique, et ça tu me l'avais dit, homosexuels et personnes transgenres sont liées, en fait.
Alors,
dans l'opinion publique.
Dans l'opinion publique, c'est-à-dire, quand on parle d'homosexuel, comme en France, on parle de bisexuel, de transgenre et autres, les sociétés africaines ne considèrent pas, ne font pas ces différences. On parle d'homosexuels, qu'ils soient efféminés ou non efféminés, qu'ils soient transgenres ou bisexuels, vous tous êtes homosexuels. Peu importe même les rôles joués par les partenaires lors des rapports sexuels. C'est un peu différent de ce qui se passe au Brésil. Mais c'est-à-dire que cette représentation vient d'où ? Tout simplement dans l'une des croyances, parce que ce qui condamne l'homosexualité en tant que telle, avant qu'on ne parle de loi, c'est d'abord les représentations culturelles. Tout en sachant que la plupart des codes, le code pénal du TPU, ou alors le code civil et tout, font une association entre le droit germano-romain et le droit coutumier, ou alors la culture locale. Donc, elle est imbriquée dedans. Je veux, par exemple, prendre le cas de l'héritage. Le cas de l'héritage, par exemple, est différent. Mais pour revenir à ce que Gérard était en train de souligner tout à l'heure, c'est que dans l'homosexualité, renvoie à la sorcellerie. Ça renvoie à la sorcellerie. Donc, un homosexuel, dans les représentations, notamment dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun ou le Gabon, l'homosexuel est celui qui a deux sexes, en fait. Tout simplement parce que les esprits, dans les cultures, beaucoup de Sud-Africains considèrent que l'esprit a la capacité de sortir, d'adopter un autre sexe, juste pour aller agir.
Donc là, on est dans un autre modèle que le modèle occidental, en fait.
Complètement. Rien à voir. Voilà. Rien à voir. Donc, souvent, un garçon, par exemple, qui est... on commence à soupçonner un garçon, peut-être un jeune garçon de 6-7 ans, on commence à soupçonner par exemple qu'il est féminin, on va considérer qu'on l'a gâté lors de sa naissance. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il est en train de... Il y a une séparation entre comportement masculin et comportement féminin. Le comportement féminin, tout garçon qui emprunte le comportement féminin et qui ne le fait pas sciemment, on considère que c'est le sorcier qui l'a gâté.
D'accord.
Et dans la représentation, je reviens sur ce point, dans la représentation, les homosexuels se sont considérés comme ces individus qui sont transgenres. C'est-à-dire que même si ça ne se voit pas pour certains, parce que je voudrais encore dire que dans les sociétés africaines, on considère que l'homosexuel, comme en Occident, c'est ce garçon qui est féminin. Mais je suis désolé. Quand mes enquêtes de terrain montrent que la plupart des homosexuels venant d'Afrique affichent une virilité en puissance. Si je peux utiliser l'expression, oui. Et tout en sachant qu'il y a des sociétés où la masculinité se construit jusqu'à un âge avancé, où le corps se construit, et c'est-à-dire on masse le corps, on enferme, on est corseté dans une sorte de virilité qui fait en sorte que à tout le monde est dans les performances, et que les anglo-saxons, tu performes. Donc, en tant que tel, les questions d'identité étrangère, c'est en Occident qu'on parle. Mais en Afrique, les identités, sur le plan de la sexualité, c'est l'homme, femme, masculin, le masculin, le féminin. Voilà.
Francis, toi qui es camionnet, tu peux confirmer tout ça?
Oui.
Approche-toi un petit peu du micro.
Tout ce qu'il dit est vrai. C'est vrai. Dans mon pays, je prends le cas de mon pays, le Cameroun, l'homosexualité est punie par la loi. L'article 347-1 du code de procédure pénale stipule que toute personne prouvée en train de faire un acte sexuel avec une personne du même sexe a droit à 6 ans d'emprisonnement. Donc, dans mon pays, c'est vraiment très... c'est tabou, en fait. C'est tabou, c'est un sujet très délicat. Et c'est vrai, ce qu'il a dit, c'est de la sorcellerie. En fait, on te considère comme un sorcier, comme quelqu'un qui n'a pas tous ses sens et tout. Moi, je peux prendre mon cas personnel. J'ai été rejeté par ma famille, par mes proches, parce que on dit que je suis un sorcier. Donc voilà, et j'ai fui mon pays pour ça, parce que je suis un sorcier. Parce que je mérite la mort, parce que j'ai bafoué les règles ancestrales et tout. Et il faudrait que je sois sacrifié. Je dois être sacrifié. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est pas facile.
Mais tout cela, quand on dit sorcier, c'est pas seulement que les effets de la sorcellerie
C'est-à-dire qu'il ne serait pas le seul à subir les effets de la sorcellerie.
Oui.
C'est-à-dire que l'homosexualité porte malheur à sa famille. C'est-à-dire s'il y a des filles qui ne se marient pas, c'est à cause de l'homosexuel. S'il y a quelqu'un qui décède, c'est parce qu'on a, il y a l'homosexuel dans la famille. Et s'il y a des gens qui sont au chômage, c'est à cause de l'homosexuel. S'il n'a pas appris que les récoltes sont mauvaises, c'est à cause de l'homosexuel qui est notre voisin. Mais autre chose qui est assez important, assez important, c'est que, c'est-à-dire, lorsqu'un homosexuel qui vit quelque part, qui vit, par exemple, dans une famille, ce n'est pas toujours l'extérieur qui, c'est-à-dire l'environnement éloigné qui le met en danger. C'est d'abord son propre environnement familial.
Oui.
Son propre environnement familial. Et pour revenir aux représentations, est considéré comme rangé dans la sorcellerie tout ce qui sort de la norme. C'est-à-dire qu'au moment même les albinos, c'est-à-dire que les noirs qui ont eu les questions d'albinisme, étaient considérés comme des sorciers. Un enfant qui naît avec une déformation, ou alors qui est né à la naissance, on considère qu'il était, c'est un sorcier qui l'a gâté. Donc, l'homosexualité entre dans ce cadre-là.
Alors, Francis, pour revenir au Cameroun, est-ce que quand même tu as reçu des soutiens dans le pays, au Cameroun?
Tout est allé tellement vite, tout est allé tellement vite. Vous savez, dans mon pays, être homosexuel, c'est vivre caché. C'est ça. Tu vis caché toute ta vie. Et moi, j'ai vécu avec ça toute ma vie, toute mon adolescence, jusqu'à ce que je devienne majeur. J'ai vécu avec ça. Parce que si tu es soupçonné comme homosexuel, même dans la rue, tu es persécuté. Et tu es en danger parce que tu es homosexuel.
On peut même être tué. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pays, c'est-à-dire il y a l'Ouganda, un certain nombre de pays, pas que le Cameroun, le Sénégal et autres, et d'autres, où si vous êtes, c'est-à-dire que si pèse sur vous un soupçon d'homosexualité, on vous met un pneu et on vous brûle sur place.
Alors là, il y a d'une part, bon, ce que tu dis, c'est terrible d'ailleurs, mais il y a d'une part du pays qui pénalise, d'accord. Donc, est-ce que là tu ne parles pas dans le cadre d'une pénalisation particulière, mais c'est les populations
mais vu de l'Occident, attention, il y a quelque chose que je dis, quand je discutais avec les autres, j'ai dit, vous avez trois types de pénalisation en Afrique.
Oui.
Vous avez ce qui relève du code de la pénalisation de l'État, du droit commun et autres,
comme le Cameroun,
voilà, comme au Maroc et autres, mais vous avez la loi de la rue. La loi de la rue est plus sévère encore. Et à part cela, vous avez la loi traditionnelle, c'est-à-dire que la tradition. Ou parfois, dans certains pays où majoritairement musulmans, l'islam s'est greffé un peu, tout simplement d'eux. Mais je voudrais dire que c'est pas seulement dans les pays musulmans, même dans les pays majoritairement chrétiens, c'est assez fort.
Très fort.
Alors, du coup, Sana, par rapport à ce qui se dit, baisse ton micro. Par rapport justement à l'Afrique du Nord, justement. Alors, là, on est venu sur l'aspect Afrique subsaharienne, on dira. Donc, par rapport à l'Afrique du Nord, est-ce que tu te retrouves par rapport au Maghreb, est-ce que tu te retrouves dans certains propos qui sont dits ici? Par exemple, le danger des personnes, pour les personnes LGBT.
Alors, moi, je vais vous dire un truc. Je ne peux pas parler des autres pays qui sont voisins.
L'Algérie,
Tunisie, tous mes respects à la communauté LGBT qui se font condamner tous les jours. Je vais parler du Maroc parce que je connais le Maroc, je connais mon pays. J'ai vécu presque la moitié de ma vie au Maroc. Et... en fait, c'est qu'aujourd'hui, là, on est en train de parler, je pense, il y en a des homosexuels ou alors des trans qui sont considérés homosexuels, comme d'habitude au Maroc, ce qui se passe, 12, 13, 14, qui vont être condamnés aujourd'hui, voilà, tous les jours, c'est quotidiennement. En fait, comment dire? Le problème, c'est en l'absence de l'état de conscience de certaines personnes, de l'éducation, comme a dit
Oui.
Et
On est toujours obligé d'être hypocrite pour être accepté dans la société. Toujours. Moi, j'étais une personne... une femme forte qui a toujours essayé de sortir de cette hypocrisie sociale que vit la société pour leur montrer la vérité, ma vraie personnalité. Je ne veux pas être hypocrite, c'est pas que tout le monde, même ma famille, est hypocrite, c'est pas que tout le monde est hypocrite, que moi je suis obligée d'être hypocrite pour être acceptée. C'est vrai que c'est pas facile, mais j'ai été tabassée, frappée pas mal de fois, et je continue mon combat, j'ai des cicatrices partout, et mais j'ai fait la prison, j'ai tout fait, quoi, c'est tout ça. C'est à cause de ma vraie féminine, mon comportement. Mais rien ne changera parce que c'est ma personnalité. Personne ne pourra changer ma personnalité. Je me suis toujours battue pour que je sois moi-même. Et du coup, ben, à un moment donné, j'étais fatiguée. Ce qui m'a beaucoup fatiguée, c'est que j'ai reçu des menaces de mort des personnes. C'était pendant Ramadan.
C'était au Maroc, ça.
C'était au Maroc, justement. Mmh. Pendant Ramadan, il y avait... avant, c'était juste... On me prévient pas. Maintenant, on me prévient. Genre, on me dit, voilà, si tu sors à tel jour, on va te tuer. Là, ça m'a beaucoup fait peur, même si j'y crois pas, mais ils peuvent le faire.
Mmh. Ça m'a rejoint un peu ce que tu disais.
Ils peuvent le faire. C'est vraiment des malades.
Vraiment, la vindicte populaire, en fait. C'est, voilà. On voit de la rue, on voit du...
Le problème aussi, c'est que au Maroc, quand on est né au Maroc, on est nommé musulman. Donc, automatiquement, tu restes musulman jusqu'à la mort. Même si tu leur dis, je suis athée, je suis voilà. Soit tu es rejeté par ta famille et tu tombes dans une société qui ne va pas tolérer ta religion, et bah tu es musulman. Après, l'État, justement, t'oblige d'être musulman. Interdiction de l'alcool, l'homosexualité, non, c'est haram, c'est shoma haram, c'est péché, c'est deux H, moi je les nomme deux H. Shoma haram, honteux, il ne faut pas parler de ça. Pourquoi? Parce que l'absence de l'état de conscience, l'éducation sexuelle, parce qu'il n'y a pas d'éducation sexuelle au Maroc. Moi j'en ai subi quand je sors, moi dans la famille, la petite famille, la grande famille, c'est toujours... ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu comme expérience, c'est que mes cousins, mes petites cousines, genre leur maman leur dit non, ne l'aie pas avec lui, il est féminin, il va vous condamner.
D'accord.
Il va vous condamner, vous allez être comme lui, il est féminin, tu vois. Après, tout ça m'a beaucoup fatigué, ça a fatigué ma famille aussi. J'ai essayé de penser un peu un peu loin, très loin, de ranger mon bagage, mon sac, et de même si j'étais plus fort pour moi, parce que je peux pas continuer, plus je grandis, plus je fais rien. Et je peux pas continuer le combat pour le vide. Mmh. Et rien ne changera. Je dis pas que rien ne changera, mais d'ici 30 ans, 40 ans, les lois changeront. Mais j'ai pas le temps passe vite. À attendre d'ici 30 ans, 40 ans, après je vais venir, après je vais grandir, après je vais me dire je vais rien faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est le temps de quitter le Maroc.
Ouais. D'accord.
Après, je ne suis pas la seule.
Tu as quitté le Maroc parce que tu voulais aussi...
Parce que tout simplement, ma vie est en danger.
Voilà, parce que ta vie est en danger.
Voilà.
Et toi, Francis, c'est un peu ça aussi.
Oui.
Je me sentais que ta vie était en danger au Cameroun.
Je ne sentais pas. J'ai failli être assassiné par les membres de ma propre famille et par la population, les personnes du quartier qui m'ont craqué et qui ont failli m'ôter la vie. Et j'étais obligé, je n'avais pas le choix. C'est à cause de ça que j'ai décidé de prendre la route et de quitter mon pays. Oui, parce que c'était pas facile. Ce n'était pas facile. J'avais un boulot, je m'en sortais presque bien. Et j'ai été obligé de tout abandonner, ma famille, tout le monde, parce que je ne me sentais plus en sécurité dans mon pays. Et même aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand j'essaye par exemple d'être en contact avec une personne, je reçois des messages de menaces de mort des personnes qui sont décidées à en finir avec moi parce que je suis un sorcier, parce que je ne mérite pas la vie, parce que je suis une personne qui n'a pas toutes ses capacités mentales. Donc, c'est ça en fait.
Oui, tu voulais rajouter quelque chose, puis après on écoutera ta chanson.
Alors, moi, par rapport à mes travaux de recherche, m'ont révélé quelque chose quand même d'assez pertinent, c'est que les LGBT ont une très grande conscience des limites du départ. Et c'est pas contrairement à l'immigration, comme l'immigration économique, vue du Nord, c'est pas une immigration économique. Vous avez une forte mobilité des LGBT, même en Occident, qui a toujours les gens sont partis d'Allemagne de la France pour l'Allemagne ou des régions pour Paris. Et c'est le même, on a observé le même phénomène en Afrique où les gens sont partis des zones rurales, les LGBT, certains sont partis des zones rurales vers les grandes villes. Mais il y a deux villes quand même dans l'espace francophone, je voudrais revenir sur ça, c'est la côte Abidjan. Dès le moment, je découvre qu'il y avait beaucoup d'homosexuels qui partaient des autres pays, qui allaient s'épanouir à Abidjan. Du moins, ceux qui pouvaient le faire financièrement, qui avaient un peu les moyens. Et aussi, qu'est-ce qui les amène à partir et qui touche un peu à l'aspect psychologique, c'est que la question de la différence, souvent certains ressentent le sentiment de ne pas avoir la place. Certains ont eu le sentiment d'avoir été adoptés par leur propre famille. Et ce qui fait en sorte qu'ils ont l'impression que là où leur place est ailleurs, ils doivent partir en fait. Même ce n'est pas forcément une immigration économique, c'est un endroit quelque part où ils peuvent respirer et se réaliser. Et ils sont perpétuellement dans l'immigration, perpétuellement en train de se déplacer. Il y a ce premier aspect. Deuxième aspect qui est très important, je suis un peu mal à l'aise lorsque j'apprends de ça, moi, que les personnes qui sont demandeuresses d'asile, on est contraints, en fait, sont frappés d'interdiction de travailler. Les homosexuels sont frappés par le besoin d'autonomie, notamment le besoin d'autonomie financière. Parce que c'est quelque chose qu'ils savent, en fait, qu'ils apprécient et puis dont ils mesurent la valeur. Et toutes mes enquêtes, j'ai mené des enquêtes à Paris l'année dernière, et tous, même ceux qui n'avaient pas encore une situation, je veux dire, financière ou professionnelle assez qui pouvait les permettre, étaient angoissés par cela, en disant, ce n'est que par là que je peux m'échapper de ma famille. Et mes enquêtes, c'est aussi ma communauté subsaharienne, notamment les Africains de Paris, en fait.
D'accord. Alors, on va faire une petite interruption musicale. Bernard qui a prévu la musique, je ne sais pas ce qu'il nous a prévu, il vient de le dire. Oui, Bernard, il plane ce soir.
On va rester dans le thème de la soirée. Oui. Et on va écouter le chanteur tchétchène là, qui a arrêté.
Qui a disparu, d'ailleurs.
Voilà, disparu. Certains disent qu'il est mort, etc. Oui. Donc c'est Zelim Khan Bakayev.
حنيق يا غدي سيزار La seule émission LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi, de 20h à 21h, sur Radio Pluriel.
Merci de me retrouver dans la dernière partie de notre émission de ce soir. Donc je prends mon souffle, je suis avec Jean-Yves, Sama, Louis, Francis, et je suis avec moi-même. Michel et donc, Michel et Bernard sont en régie. Alors, comment on va orienter la dernière partie de l'émission? Louis a tenté de nous dire quelque chose d'intéressant parce que l'Afrique, et je reviens aussi à toi, Sama, par rapport à la religion, parce que tu as beaucoup évoqué la religion aussi. En Afrique, je ne sais pas quel est le poids de la religion véritablement. On parle du poids des traditions. Avec Sama, on parle d'islam. On nous a dit l'imprégnation de l'islam dans la société marocaine, par exemple. On sait que les pays africains, certains sont, il y a des communautés musulmanes importantes dans certains pays, certains sont majoritairement musulmans, d'autres non. Au Cameroun, par exemple, le pays n'est pas majoritairement musulman, il y a une partie de la population qui est musulmane, partie chrétienne.
Oui, la plus grande partie est chrétienne.
Donc là, dans ce cas-là, on ne peut pas imputer soit à l'islam, soit au christianisme. On a l'impression qu'on parle plutôt de tradition.
Oui, il y a aussi la religion aussi
qui s'est briefée
sur la tradition, parce que chez moi, par exemple, ma famille est, je suis issu d'une famille chrétienne et traditionnaliste aussi, donc avec tout ce qui s'est passé, Tout s'est mélangé, ils ont mélangé la chrétienté et la tradition. Et...
Ouais.
Oui.
Ça, tu peux penser comme ça.
Bon, je ne dirais pas, je ne serai pas absolu sur la question. Ça dépend. Vous allez par exemple au Mali, au Sénégal, ce sont des pays fortement, majoritairement musulmans. Et vous verrez que il n'y a pas tellement l'irruption du religieux est très forte, que ce soit dans le politique ou dans la vie quotidienne, dans les autres aspects, voilà. Mais c'est aussi parce que la religion donne un statut. C'est-à-dire que plus on observe la religion dans ces pays, plus on est considéré qu'on est vertueux, en fait. Vous allez dans des pays comme le Gabon, ou les pays comme la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, Il y a un nouveau, il y a des phénomènes qui sont récents, je vais dire. C'est des phénomènes, c'est l'arrivée de certains pasteurs qui sont arrivés dans ces pays. Voilà, aujourd'hui se réveillent. Et aujourd'hui, on parle du business religieux. Du business religieux. C'est, je mentionne des jeunes diplômés qui n'ont pas pu avoir une carrière professionnelle qu'ils auraient rêvé et qui ont embrassé le métier de pasteur. Le phénomène est très présent en RDC, ex-Zaïre, est très présent en Côte d'Ivoire et dans
au Cameroun.
Commence à toucher un peu le Cameroun. Et là, ce sont ces jeunes pasteurs qui se sont emparés de la question homosexuelle, la question de la franc-maçonnerie, tout ça parce que ce sont des questions, lorsqu'on brandit ces sujets, la population les accorde une grande écoute.
Alors, il y a aussi un autre aspect, oui, après je repasserai la parole à Saman, dont on parlait, c'est que cette espèce de crispation en Afrique, contre l'homosexuel, contre les personnes LGBT, serait aussi une forme de rejet de la mondialisation, en fait. L'homosexualité ou la transidentité serait des phénomènes un peu, quelque part, occidentaux, qui voudraient s'imposer, par exemple, aux autres, au monde entier. Et ça, l'Afrique, une certaine partie de l'Afrique, se crispe à ce sujet.
Un avatar de la mondialisation, mais également une forme de non-colonisation. Parce qu'on considère que la colonisation, c'est-à-dire que quand l'Occident est arrivé pour coloniser l'Afrique, c'était par les esprits, c'était maintenant cette nouvelle génération d'Africains. C'est-à-dire qu'elle est, même pas cette nouvelle génération, même l'ancienne, elle considère que, et une première fois, il n'y aurait pas de deuxième fois. Et d'autre part, ceux qui défendent souvent les homosexuels, les défenseurs des droits de l'homme, généralement, lorsqu'on arrête un homosexuel dans un pays, généralement, on voit une forte ferveur venant de l'Occident. Et généralement, c'est les politiciens. Ou alors c'est au niveau de l'Union Européenne, ou alors au niveau des Nations Unies. Or, tous ces gens, c'est-à-dire que, vu d'Afrique, les Nations Unies, il y a un procès qui est fait aux Nations Unies aujourd'hui, hein, un procès symbolique, bien sûr. On considère que les Nations Unies, la communauté internationale, est à la solde de l'Occident. Voilà comment on perçoit. Donc, à chaque fois que les Nations Unies s'élèvent, ou alors pour pouvoir défendre, lorsqu'on arrête un homosexuel, par exemple en Ouganda ou en Égypte, comme on l'avait connu une fois, l'Union Européenne s'élève, on considère que c'est l'Union Européenne, c'est un bras circulé de la mondialisation, puisqu'elle est là pour l'économie, donc elle veut également changer. C'est-à-dire que le dernier bastion qui arrive encore à contrecarrer, c'est les traditions. C'est les traditions africaines qui ont contrecarré cette mondialisation.
D'accord. Alors, Sama, maintenant, je reviens à toi, sur le thème du Maroc, plus spécifiquement, en tant que pays musulman. Tu as dit que l'islam, donc... Justement,
je vais finir les explications.
Parce qu'il est vrai que, par exemple, on parlait de la Tchétchénie, il n'y a pas que dans les pays africains que l'homosexualité. Et la Tchétchénie, justement, est un pays musulman. Et moi, j'ai quelqu'un qui me disait, une personne algérienne qui me disait, et homosexuelle aussi, qui me dit, tu vois, l'islam, finalement, qui rejette l'islam, parce qu'elle dit, c'est une religion, comme ça. Tous les pays musulmans, voilà, mais attends, mais c'est ce qu'elle me dit, après, tu parles. Tous les pays musulmans sont des pays qui oppriment l'homosexualité. Est-ce que tu penses que cette oppression et cette criminalisation est liée à la religion?
D'accord. Premièrement, cette personne a tort. Normalement, elle n'a pas le droit de généraliser. Moi, je généralise pas. Moi, si je veux dire, en fait, déjà, je suis pas musulmane. Je suis agnostique. Pour moi, il y a quelque chose qui existe, peut-être. Toujours peut-être. Mais je ne suis pas d'accord que l'État marocain m'oblige d'être musulmane. Il applique des lois qui sont faites pour les personnes, pour toutes les personnes marocaines qui vivent au Maroc. Il leur oblige de respecter ces lois qui sont faites pour les musulmans. Tous mes respects à tout être humain qui a choisi et non pas prétend. Parce que au Maroc, y a des personnes qui sont prétend musulmans, bien évidemment, ils sont obligés de se cacher, ils sont obligés de respecter, ils sont toujours obligés. Moi, je peux pas respecter cette
façon d'imposer les choses, en fait.
D'imposer les choses. Au Maroc, m'oblige, je suis née au Maroc, je suis nommée musulmane, Et je suis obligée justement parce que hier au Maroc, par exemple, pendant Ramadan, par l'abrogation de l'article du code pénal 222, c'est puni par la loi de boire de l'alcool en France. Au Maroc, on vend de l'alcool et tout ça. Mais je veux pas parler de l'alcool, je veux parler du Ramadan. Il y a des personnes qui sont obligées de se cacher pour manger. Bref. C'est que moi, en fait, je peux pas généralement respecter des lois qui ne me respectent pas. Je suis pour la loi. Je suis pour le règlement, mais correct.
Alors, après, quand on parle de l'islam, ça concerne aussi, on a vu, la chrétienté, le christianisme. Hein. Une chose, parce que la personne que j'évoquais, justement, qui est homo, c'est un garçon homo algérien, rejette l'islam. Et il me dit, moi, je rejette l'islam parce qu'elle me rejette. Est-ce que toi, tu penses que maintenant, tu te dis agnostique, d'accord? Est-ce que tu es agnostique parce que, justement, tu es une personne transidentitaire? Est-ce que tu pourrais rester musulmane, par exemple, et être ce que tu es? Est-ce que pour toi, c'est compatible?
J'ai rien contre ma famille musulmane, je respecte.
Non, mais toi, personnellement?
Moi, personnellement...
Parce que, tu sais, là, c'est des associations musulmanes homosexuelles, ça existe. Il y en a en France.
Ça existe, je respecte. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir cette personne heureuse de ses choix.
Bon, on peut être musulman et homo, c'est ce que je veux dire, comme on peut être musulman et catho.
Qui choisit ce qu'il veut. L'essentiel pour moi, c'est de voir cette personne heureuse.
Après, c'est une question pour toi de personne, c'est-à-dire une question d'individu. Tu ne veux pas que ce soit un État, un groupe de personnes qui t'impose, en fait, ta façon de la vivre. Voilà. Est-ce que tu penses qu'en France, en venant en France, est-ce que tu te sens mieux qu'au Maroc, par rapport à tout ce que tu as dit? Est-ce que tu te sens safe, comme on dit en
français? Si je suis là, c'est pour dire la vérité. Franchement, je vous dis un truc. Moi, je suis en France. C'est un très beau pays. Mais j'aime le Maroc aussi. C'est un très beau pays aussi.
S'il n'y avait pas eu tout ça, tu serais resté au Maroc.
Je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi j'ai quitté le Maroc. C'est en France aussi, le seul phénomène qui me blesse le plus, c'est le racisme. On est beaucoup subi en France. C'est bien clair, la personne a exprimé son racisme, quoi. Si tu veux, je peux vous donner des exemples. Comment cette personne a osé exprimer son racisme librement?
Là, tu parles de quelque chose qui t'est arrivé à toi personnellement.
Ça m'a beaucoup tué. Et j'ai réagi.
Et ça, quand tu parles de racisme, donc par rapport à ton origine marocaine alors?
Par rapport à mon origine. Par rapport au terme réfugié.
D'accord.
Par rapport, c'est dangereux. C'est un fantôme. C'est un extraterrestre, un réfugié. Ça choque de dire que un réfugié, voilà, black de peau, c'est choquant, marocain, c'est choquant, en France, les blancs blanches de peau. De quoi ça te dérange? De me dire, retourne chez toi, Sama, t'as rien à faire en France, on s'occupe juste des personnes LGBT français, dans un centre LGBT de Lyon.
Par rapport à ça, parce que là, on aborde un sujet, enfin, c'est pas un autre sujet, justement par rapport à l'accueil des personnes LGBTI venant d'Afrique.
Oui.
Par rapport à ce qu'a dit Sama, qui est marocaine, toi, tu es camerounais, est-ce que tu pourrais appuyer ce qu'elle a dit sur certains aspects comment tu te ressens? Tu sens les choses, toi, en France?
Oui, c'est vrai que quand je suis arrivé en France, je n'avais qu'un seul objectif, c'était d'entrer en contact avec ma famille, parce que j'ai une grande sœur ici et j'avais envie d'entrer en contact avec elle. Et je suis resté 3 mois dans la rue, j'ai erré dans la rue et tout. Le racisme, moi, j'ai pas en France, depuis que je suis arrivé en France, j'ai pas quand même vécu ça. J'ai pas vécu, on m'a pas dit des trucs méchants, j'ai pas quand même vécu ça. Mais quand je suis arrivé, quand j'ai pu trouver ma soeur, parce que je la cherchais, et elle n'a pas pu m'accueillir chez elle, parce que son mari ne voulait pas d'une personne homosexuelle, et j'étais obligé de replonger dans la rue. Et c'est en ce moment que j'ai rencontré Jean-Yves, j'ai rencontré des personnes qui m'ont soutenu et qui me soutiennent sur tous les plans. Et je ne peux que, je sais pas, je peux pas dire que moi j'ai pas vécu, j'ai pas encore vécu d'acte
discriminateur.
Oui, même la police, je n'ai jamais été arrêté par la police, j'ai pas encore reçu ces actes, mais c'est ça en fait, c'est comme ça, c'est la vie. J'ai vécu le racisme ailleurs durant mon parcours. J'ai été traité comme un animal. J'ai été traité comme une personne, comme un vulgaire partout durant mon parcours. J'ai été brutalisé, j'ai été séquestré, j'ai vécu plein de trucs horribles.
Ça c'était dans le cadre de ton homosexualité.
Non,
pas spécialement. D'accord.
Pour
révoquer les services au Cameroun, etc.
Oui, pour arriver ici, pour arriver ici en France, j'ai vécu plein d'actes. J'ai été traité comme un animal, comme une personne affamée, une personne qui n'a personne.
En France ?
Non.
D'accord.
Durant mon parcours.
D'accord.
En France, moi j'étais. Je suis très bien encadré, je suis entré dans des associations qui me soutiennent, je fais des actions, j'aide des personnes. Avec ce que j'ai eu, le parcours, les difficultés que j'ai eues, j'essaie un peu de donner le meilleur de moi par rapport aux personnes qui viennent. Là, je suis bénévole à Aide, l'association Aide, et il y a des personnes qui viennent qui ont des problèmes, des persécutions dans leur famille et tout. Avec l'expérience que moi j'ai eue, que j'ai, et avec tout ce que je vis à présent, j'essaie aussi de donner un peu de me sentir utile en fait. Et c'est ça.
D'accord.
Donc moi j'ai pas reçu d'acte en France, j'ai pas reçu depuis que je suis là, en tant qu'Africain noir, j'ai pas été. J'ai pas reçu ça.
Y compris au sein de la communauté LGBTI locale, française, européenne. Est-ce que ça veut dire ça?
En fait, moi, je suis une personne un peu discrète. J'ai toujours vécu comme ça. J'ai toujours été renfermé. Et c'est depuis que je suis. J'ai connu Jean-Yves, des associations que j'ai essayé de me sentir parce que j'ai essayé de me sentir. À l'aise tranquille quoi. M'exprimer, j'ai commencé à m'exprimer en fait. Et c'est un peu ça. Donc voilà.
Merci Francine pour ton témoignage. Là, on va devoir conclure l'émission. Mais on aborde finalement un autre sujet d'émission pour plus tard. C'est une fois présent en France, les migrants, LGBTI, les réfugiés LGBTI, je m'entends plus, alors je ne sais pas ce qui se passe. Les réfugiés LGBTI, comment ils sont accueillis, comment, parce que ça m'évoque un accueil qui n'a pas toujours été à la hauteur de ce qu'il aurait pu attendre de la France. Francis, tu as une autre expérience de son accueil en France, c'est un estime. Par contre,
je suis sans domicile, j'ai pas de domicile. J'ai demandé l'asile, mais j'ai pas reçu d'aide.
Oui,
je suis comme ça, sans aide, sans rien.
Et puis ta famille ne t'a pas soutenu en France, en plus, sa famille qui est en France, elle a rejeté aussi.
Je voulais juste rajouter un truc concernant le centre LGBTI. Il y a tellement de choses à revoir dans tous les centres de France. Parce que quand on arrive à ces centres, on trouve que des drapeaux gays. Il faut revoir que c'est des drapeaux gays. Tout à l'heure, elle a dit une émission gay LGBT. Pluriel, c'est ça? Radio gay LGBT. Ok. Il y a l'existence des trans. Il faut qu'on prenne en considération. S'il n'y a pas d'homosexuel, il n'y aura pas de trans. S'il n'y a pas de trans, il n'y a pas de bi. S'il n'y a pas de LGBT. On ne pourra pas combattre les...
Ça, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de problème. Par contre, bon, déjà, l'émission va tourner à sa fin. Mais c'est un sujet intéressant, d'ailleurs. Il faudra qu'on aborde un sujet intéressant qu'on a déjà abordé ici, d'ailleurs, je précise tout de même. Et un sujet aussi, celui, comme on disait, après, une fois en France, c'est aussi le rôle de l'MSG, l'accompagnement des migrants, mais aussi des réfugiés, des demandeurs d'asile, comment ils vivent. Ils peuvent être rejetés par leur
propre communauté ici en France, par la communauté.
Parce qu'ils ont peur, ils ont peur d'être dans le pays par rapport à tout ce qui s'est passé, Ils ont peur. En fait, la famille africaine, la famille qui est en Afrique, a un impact.
C'est ce qui se passe sur votre père, enfin en France, je veux dire.
Oui, donc c'est un peu ça. Donc c'est ça.
Sur cette question, je voulais simplement dire que nous avons différents profils. Hein. C'est-à-dire que vous avez des LGBT, par exemple, qui arrivent en France, et là, qui se coupent carrément tout relation avec leur communauté d'origine, en fait. Et, par exemple, un Congolais qui arrive, il va couper les ponts avec les Congolais et qui va aller entrer dans une autre communauté africaine. Vous avez ce cas. Vous avez notre cas, vous avez notre profil qui met à mes ailes, c'est-à-dire que c'est LGBT qui coupe carrément les ponts avec les communautés africaines et qui vont s'exiler à nouveau. Ça, c'est un second exil. Et qui vont s'exiler dans une... qui vont s'exiler, par exemple, chez LGBT blanc. Voilà. Ouais. Vous avez également ceux qui font l'entre-deux. C'est-à-dire que le week-end, il est en région avec sa communauté d'origine et le week-end, il est dans une autre communauté.
C'est un autre sujet qu'on pourrait aussi traiter à la mission, en suivant le parcours de nos amis ici présents, par exemple, qui pourraient nous en parler. Moi, je voudrais terminer l'émission, parce que malheureusement, ça ne doit qu'une heure, c'est trop court, parce qu'il y a une exposition, justement.
Oui.
Je mets une couche. Effectivement, très rapidement, de Méger avait imaginé une exposition sur les personnes de couleur dans les luttes LGBT, qui présente non seulement les apports de ces personnes dans l'histoire, justement, de tous les progrès qui ont été faits pour les personnes LGBT en général. Bref, pour simplifier, on a un vernissage demain.
Voilà, vernissage demain, tout le monde, même 18h au centre. Voilà. C'est une exposition donc, de MSG sur les personnes de couleur, l'investissement.
Pour être plus précis, c'est moi qui ai prêté cette exposition à MSG.
D'accord.
Voilà, c'était vraiment pour essayer d'assurer une visibilité des personnes de couleur dans la communauté, de rappeler que dans la communauté LGBT, il n'y a pas que des blancs et des blanches.
Nous sommes d'accord. Oui, le mot de la conclusion.
Alors, tout simplement, tant qu'il n'y aurait pas des études faites sur les LGBT, les gens vont rester enfermés dans leurs croyances. C'est-à-dire que les connaissances, un ensemble de connaissances de terrain qui pourraient être amenées à faire changer. On aura beau avoir tous les politiques du monde, tous les cadres juridiques du monde, tant qu'il n'y aurait pas des études. Et franchement, je lance franchement souvent appel qui est comme des études sur les questions de genre, sur les questions LGBT, notamment des recherches sur les en Afrique, mais ici. Merci.
Merci beaucoup, Louis, pour la parole de la fin. Merci à tous d'être venus.
Merci.
Ce soir.
Merci.
À demain, un vernissage, je rappelle, le 8, donc février, demain soir, au centre de l'Église.
C'est ça, exactement.
Mercredi, Pluriel Gay. La seule émission LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi, de 20h à 21h, sur Radio Pluriel.